Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, notre Père Saint-Jean, Saint-Thomas, d'abord terminer la Genèse. Et elle se termine, la Genèse, d'une façon très familiale. Par la bénédiction de Jacob. Et le père et le grand-père. Jacob appela ses fils et dit : Réunissez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des jours. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Alors, il commence par toutes les tribus. C'est un morceau extrêmement beau. La bénédiction de tous ses fils. Ça a été traduit dans des vitraux à Jérusalem, à la synagogue de Jérusalem. Et ces vitraux ont été exposés. Et c'est très curieux. C'était, le nom m'échappe, celui qui a fait ça, qui est bien connu, mais c'était très beau. Et ce qui était très extraordinaire, c'était le vitrail sur Judas, extraordinaire, parce que c'était le sang. Il annonçait prophétiquement Jésus, la croix. Alors c'était d'autant plus poignant que ces vitraux étaient faits par un juif croyant. Ces vitraux étaient exposés à Paris, mais je les ai vus là. Et je les ai vus ensuite suspendus à Jérusalem, dans la synagogue de Jérusalem. Donc, ça reste, et c'était les 12 tribus d'Israël. Vous voyez, on passe de la famille aux 12 tribus. Et ces 12 tribus commencent religieusement par une prophétie de Jacob. C'est la tribu de Judas qui est marquée d'une façon très très spéciale. On va regarder ça. toi, Judas, toi, tes frères te célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. C'est un jeune lion que Judas. Tu remontes du carnage, ô mon fils. Il s'écroule, se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Le sceptre ne s'écartera pas de Judas, ni le bâton de Jesse entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh. À lui les peuples obéiront. Il attache à la vigne son anneau, au sceptre de joie, le petit de son ânesse. Dans le vin, il nettoie son habit, dans le sang des raisins, son manteau. Il a les yeux troubles de vin, il a des dents blanches de lait. Annonce le Christ en croix. Le vin. Il est saoulé par le vin. Complètement hors de lui. Et c'est très extraordinaire. Quelqu'un qui ne croit pas dans Christ, uniquement en prenant la tribu de Judas, d'où sort le Christ. Et montre ce sang. Judas marqué par ce sang du Christ. Alors, vous voyez, ce qu'il faut, je crois, pour nous retenir, c'est que Dieu commence par la famille. C'est ce qui est le mieux réussi. Oui. La famille. C'est comme le lieu où Dieu se retrouve toujours. Jusqu'à la fin, je crois, il y aura des familles pieuses, des saintes familles. Il y a aujourd'hui des très saintes petites familles, très étonnantes. Je crois qu'on en connaît tous. On voit des mères qui ont une vie héroïque et qui supportent tout avec une très grande foi, un très grand amour. Et c'est encore dans la famille où la foi se transmet. Et Monseigneur Gilson, bientôt on aura là-bas quelque chose. Monseigneur Gilson, qui est très spécial, il est très, très, très spécial dans le sens que, je dirais, à tout point de vue, il est libre. C'est toujours ce que j'ai remarqué avec lui. Il est très libre. Monseigneur Gilson était appelé à avoir un rôle très important dans l'Église. Puis il y a eu un changement complet. Il était chassé par lui. Le mis évêque dans son coin. Moi, je vous donne la réaction que j'ai parmi les évêques que j'ai vus. à mon retour de Fribourg, tous me demandaient « Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là ?» Je leur disais toujours « Professeur d'université à Fribourg, professeur de philosophie. » Gilson est le seul qui a dit « Ah, vous avez enseigné la philosophie. Ah, ça, c'est bien. » Parce que on n'enseigne plus la philosophie. Dans les grands séminaires, on n'enseigne plus la philosophie. Il faut à tout prix maintenir la philosophie. Alors je disais, c'est ce que j'essaie de faire et que je voudrais faire. Parce que c'est indispensable, la philosophie. S'il n'y a plus la philosophie, on sera tous protestants. C'est-à-dire qu'on sera tous fidéistes. Alors, le protestantisme est né dès le XIVe siècle, quand on a dit que le point de départ de la connaissance, un théologien franciscain anglais a dit que le point de départ de la philosophie, c'était moi-même me connaissant. Il a dit ce que Descartes a crié ensuite, lui l'a dit comme théologien. Je connais, et il ajoutait, puisqu'il était franciscain, j'aime Socrate. Il mettait les deux, la connaissance, j'aime Socrate. Bon, il a été condamné par l'Église, par le Saint-Père, qui à ce moment-là était à Avignon. Parce qu'au fond, il avait une théorie beaucoup plus absolue que Luther. Mais il est en ligne directe avec Luther. Parce qu'il a continué d'enseigner. C'est-à-dire, le point de départ n'est plus l'être, mais la connaissance. On s'enferme sur soi. Et au XIVe siècle, la théologie a éclaté dans tous les systèmes, sitôt Saint Thomas. Il n'y a pas eu de successeur de saint Thomas. Saint Thomas a été comme une cathédrale magnifique ou un mythologique. Il n'y a pas eu de successeur. Là, je crois que c'est très important de comprendre ça. Et que la théologie est partie dans tous les sens à partir du XIVe siècle. Le XIVe siècle, à ce point de vue-là, extraordinairement intéressant parce qu'on voit tous les systèmes théologiques possibles. Je crois. Ils sont nés comme si on avait l'effort de saint Thomas avait été tellement grand. Et donc pour ceux qui succèdent comme un effort qu'ils n'arrivaient pas à atteindre, alors ils sont partis chacun. J'ai reçu comme un très gros coup à ce moment-là. Et il y a eu ce phénomène, vous voyez, on comprend d'une certaine manière, le phénomène de la scolastique. C'est la théologie qui se referme sur elle-même, qui veut tout prendre. Même la philosophie. La philosophie ne peut exister que grâce à la théologie. La scolastique, c'était ça. La philosophie existe grâce à la théologie et dans la théologie. elle ne peut atteindre que les gens qui sont des théologiens, trinitariens. Je crois bien saisir ce. Et alors, au récit, pour le gouvernement de Dieu, tout commence par la famille. Et tout demeure familial jusqu'au chapitre 49 de la Genèse, avec la bénédiction des 10 tribus. Et c'est quand même très impressionnant de voir cela. Dès que vous prenez le point de vue de l'Exode, vous allez voir le rôle de Moïse qui va émerger indépendamment des 10 tribus d'Israël, et Moïse, pour rassembler, va à la fois l'institution de la Pâque et le point de vue de la loi, des tables de la loi. C'est, je crois, ça capital de voir ces deux mouvements à partir de Moïse. Moïse est un homme inspiré par Dieu, extraordinaire, merveilleux. Alors, voyons au moins la naissance de Moïse. Et c'est très beau. J'ai dû dans ma vie une fois, j'étais dans une famille où il y avait deux sœurs qui étaient mariées, l'une à quelqu'un de catholique, dont le père, à ce moment-là, était ministre. Et l'autre sœur s'était mariée à un communiste. Communiste très acharné. Ces deux sœurs, c'est assez curieux, ces deux sœurs ont eu à peu près en même temps la naissance d'un garçon et d'une fille. Alors, la sœur catholique, le mari catholique, m'a demandé, est-ce que vous ne pourriez pas baptiser notre enfant ? Je connaissais suffisamment, surtout son frère, alors, qui aimait beaucoup la philo, et la philosophie faisait un lien. Alors j'ai dit, bon, très bien. Et puis, vous comprenez bien, notre sœur, l'enfant ne veut pas être marié. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une fête de famille après le baptême, demander à l'autre foyer communiste de venir, et puis on fêtera les deux ensemble au point de famille. Et si vous voulez bien, le médecin qui a été pour nous, le même médecin, c'est un franc-maçon très connu, qui est président d'une loge. Il est invité à la fête. Alors, on vous demande de pouvoir parler à ce public extrêmement divers. ces deux foyers, le père ministre, les deux foyers, le médecin, c'est un franc-maçon, un très dit franc-maçon. J'ai salué avec beaucoup de respect, du reste, comme toujours les francs-maçons, en disant simplement, j'ai eu la première manche, vous avez la seconde. Alors, il fallait trouver un sujet qui soit à la fois pour enfants, fêter une naissance, et qui respecte ce qu'on m'avait demandé, que ce ne soit pas Cato, qui respecte les autres. Et là, je dis, bon, très bien, je vais prier, je vais essayer de faire ça. Et alors, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de mieux que de prendre ce texte de l'Exode, de la naissance du petit Moïse. Parce que la naissance du petit Moïse, c'est quand même... c'est une naissance. Donc c'est fêté comme une naissance. Et en même temps, c'est une naissance tragique, en pleine lutte. Le pharaon tient la boutique et tous les enfants mâles devaient être supprimés et ont gardé les filles pour le travail. C'est un moment tragique, évidemment. Et sauvé par Moïse, sauvé des eaux. Moïse, sauvé des eaux. Je me souviendrai toujours, moi, la naissance de Moïse. Je vois la présence de ce médecin, cet accoucheur, très, très grand médecin et grand franc-maçon. Le petit communiste est très, très marxiste, très dur. Sa pauvre femme, son épouse, il subissait forcément son attitude anti-chrétienne. Alors chaque fois que je relis Moïse, je repense à ça. Un homme de la maison de Lévi s'en alla prendre une fille de Lévi. La femme conçut et enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Vous voyez, la beauté qui sauve. C'est aussi très intéressant. Ce petit, il était beau. Il était tellement beau qu'on ne pouvait pas le tuer. Il a été sauvé grâce à sa beauté. Mais évidemment, on devait le cacher. Elle le cacha pendant 3 mois. Comme elle ne pouvait plus le tenir caché, elle prit pour lui une corbeille en papyrus qu'elle enduisit de bitume et de poix. Y mit l'enfant et la déposa dans les joncs sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui adviendrait. La fille de Pharaon descendit au Nil pour se baigner. En tandis que ses suivantes marchaient le long du Nil, elle vit la corbeille au milieu des gens et envoya sa servante pour la prendre. On voit très bien le cadre, hein ? Composition du lieu. Elle ouvrit et elle le vit, lui, l'enfant, qui était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut compassion et dit : c'est quelque enfant des Hébreux. La sœur de l'enfant dit à la fille du pharaon : veux-tu que j'aille l'appeler parmi les femmes, veux-tu que j'aille t'appeler parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui allaiterait l'enfant ? Va, lui dit la fille du pharaon, et la jeune fille s'en alla appeler la mère de l'enfant. Oui, c'était bien joué. La fille du pharaon lui dit : emmène cet enfant. Allaite-le, et moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du pharaon. Il devint pour elle un fils. Elle l'appela du nom de Moïse, car, disait-elle, je t'ai tiré des eaux. Or, en ces jours-là, Moïse, qui avait grandi, se rendit chez ses frères et vit leur corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères, s'étant tourné de tous côtés. Et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Il a du tempérament, Moïse. Elle était bien élevée. Il sortit le lendemain, et voici que deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort : pourquoi frappes-tu ton frère ? Ton prochain. Celui-ci dit : qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Moïse prit peur et se dit : à coup sûr, la chose est connue. Et un secret, ça ne se garde pas. Il avait regardé, personne ne le voyait, mais il y avait quelqu'un qui le voyait. Lui ne voyait personne, mais il y avait quelqu'un qui le voyait. Pharaon apprit cette affaire. Il chercha à tuer Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Et vint habiter au pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Le frère de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser et remplir les auges pour faire boire le petit bétail de leur père. Arrivèrent les bergers qui les chassaient. Moïse se leva, prit leur défense, fit boire leur petit bétail. Ils revinrent auprès de leur Réuel, leur père, et dit : pourquoi êtes-vous revenu si tôt aujourd'hui ? Il dit : un Égyptien vous a délivré de la main des bergers. Même il a puisé pour nous et fait boire le petit bétail. Il dit à ses filles : laissez cet homme, appelez-le pour qu'il prenne un repas. Maurice consentit à habiter avec cet homme qui donna Sipora, sa fille, à Moïse. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Guéjon. Comme dit-il, j'ai été un résident en pays étranger. Guerre. Voyez cette naissance extraordinaire. Peut-être toujours très attentif aux naissances. C'est merveilleux. C'est étonnant. Il naît en Égypte, tout près, reçu par le pharaon, donc reçoit la formation égyptienne, qui à ce moment-là était la culture au sommet. Un hébreu transformé en égyptien. Quant à l'éducation, c'est assez curieux, hein, comme gouvernement divin. Ça fait réfléchir. Les Hébreux étaient à ce moment-là traités comme des esclaves par les Égyptiens. Et non seulement traités comme des esclaves, mais tués, supprimés. Parce que ils grandissaient trop vite. Ils avaient trop d'enfants. La fécondité était trop grande. Alors, tous les petits garçons étaient supprimés tout de suite, dès leur naissance. Et les filles formaient justement, on avait des filles, on ne savait pas quoi en faire. On reçoit Moïse tout de suite en pensant que ça avait une possibilité d'en marier une. On voit très bien cette miséricorde, n'est-ce pas, sous-jacente, avec le point de vue de Dieu qui est là et qui sauve Moïse. Alors, Moïse sauve les eaux. Et donc, dans la naissance de Moïse, à la fois, c'est ça qui est très curieux. Une reprise radicale avec la culture égyptienne. C'est très intéressant pour la question des cultures et de la question de la foi. Et Moïse avait sa mère. On ne savait pas que c'était sa mère. L'a-t-elle dit à Moïse, au petit Moïse qui grandissait? Il y avait sa mère qui a maintenu sa foi. Israélite. Et cependant, il était vraiment entièrement dans un milieu tout autre que le sien. Je crois que cette naissance de Moïse est quelque chose d'assez extraordinaire. la grâce de Dieu qui reprend son peuple, qui était tenté de diminuer au point de vue de sa foi, se laisser prendre. Et en même temps, risquer de disparaître. Et Dieu reprend tout par Moïse. Et il permet à Moïse d'avoir une éducation la meilleure de ce temps, la plus parfaite auprès du Pharaon. Et dès qu'il est grandi, il est forcé de quitter. Parce que il ne peut pas supporter que son peuple soit traité de la façon dont il a été traité par les Égyptiens. Vous voyez, alors, tout ce que ça représente, hein, comme donner la culture, la nature, c'est nature et culture. La culture n'est pas uniquement une question de nature, il y a la personne. Déjà à ce moment-là, on voit, vous savez, ce qu'aujourd'hui on considère, je ne sais pas si c'est toujours le même chiffre, on considère qu'un enfant qui est éduqué chez un foyer qu'il a reçu dès sa naissance, l'enfant ressemble plus au foyer qu'il a reçu et qu'il éduque qu'à ses parents qui l'ont abandonné. C'est du 40% au 60%. Très curieux. Alors, je fais l'application à Moïse. C'est un Hébreu. Mais il a ce privilège d'être éduqué à la manière d'un pharaon, d'un fils de pharaon. La meilleure éducation qu'il peut recevoir. Et à travers tout ça, gardant sa foi par sa mère. Cette remarque de Mgr Gilson, pas à propos de ça, mais c'était dans la conversation, en disant, nous avons tous, nous, la plupart du temps, pas tous, mais la plupart du temps, la tradition est faite par les mères. Et la foi s'est transmise par les mères. Et c'est vrai, ça. Actuellement, une tradition ne se fait plus par les mères. Elle se fait par la télévision. On apprend à parler par la télévision, les images. Le père Gilson, Mgr Gilson, ajoutait, comment pourrons-nous rattraper chez ces jeunes leur foi n'a pas été nourrie grâce à leur mère, donc grâce à un point de vue humain, et que leur foi a été tout de suite troublée par une culture totalement artificielle. Je crois que c'est très juste. Tu vois, la première éducation maternelle est une éducation affective. Je vous ai souvent cité cet exemple. Là, c'est réel. C'est moins réel, c'est actuel. Ce qui s'est passé en Israël, quand Israël est rentré à Jérusalem, j'étais, grâce à Dieu, à ce moment-là, Jérusalem, et ça en valait la peine, du reste. Et j'avais ma sœur qui était bénédictine au Mont des Oliviers. Et c'était pour elle que j'étais là. Alors, il y avait des méthodes d'éducation toutes nouvelles dans les kibbutz religieux. Une méthode d'éducation toute nouvelle. Les Juifs pouvaient appliquer cette méthode d'éducation là, toute nouvelle. Alors, j'ai visité les kibbutz, puisqu'on pouvait le faire, et ça m'intéressait beaucoup. Voilà le principe. Et ça a duré pendant 5 ans. Pas plus, cette méthode d'éducation. Il y avait des infirmières qui étaient là pour éduquer les enfants. Les enfants restaient auprès de leur mère pas plus que 2 heures par jour, mais jamais la nuit. Et c'était les infirmières qui les recevaient dans des lieux pour cela. Donc, l'enfant n'avait plus l'amour de la mère. Il avait l'amour de l'infirmière à la place de la mère. Ils se sont aperçus, parce qu'ils suivaient ça de très près, ils se sont aperçus que ce genre d'éducation faisait que les enfants étaient 1 an en retard. Parce que l'affectivité ne s'éveillait pas. Et c'est très intéressant, ça. C'est comme cet aristotélicien. Si l'affectivité n'est pas là, la mère pour l'enfant, on ne peut pas remplacer l'affectivité maternelle pour l'enfant. Ça ne peut pas se remplacer. Ces infirmières pouvaient être des infirmières merveilleuses, étonnantes. Et elle ne pouvait pas remplacer la mère. Et si l'affectivité n'était pas suffisamment éveillée, l'intelligence était en retard. L'éveil de l'intelligence. Puisque l'éveil de l'intelligence se fait à partir de l'affectivité. Il faut beaucoup d'amour pour remuer l'intelligence. Pour accepter. De sorte qu'au bout de 5 ans, je crois à peu près, parce que j'ai visité un kibbutz 10 ans après. Je ne visitais pas chaque année, j'ai visité 10 ans après. Alors là, je visitais avec un Espagnol qui nettement avait été catholique et revenait à la judaïté. Il me regardait tout le temps, j'étais en costume dominicain, il pouvait me regarder. Et là, il a donné tout, très bien, il expliquait tout. Puis il demandait, est-ce qu'il y a des questions à la fin? Alors je lui ai posé la question, mais vous ne m'avez pas parlé du tout de ce qu'on faisait de l'enfant qui venait de naître dans la maison. Est-ce qu'on continue encore de le confier aux infirmières? Alors, il a éclaté de rire, parce que je posais la bonne question. Il a éclaté de rire. Il y a... Eh bien, on a compris que retirer l'enfant à la mère et la confier à des infirmières, magnifique, c'était retarder l'intelligence de la mère, l'intelligence des enfants. Et par le fait même, tous les enfants avaient un an de retard. Or, comme Israël a un culte de l'intelligence, et que pour Israël, l'intelligence, c'est la première chose. On a compris qu'il fallait laisser l'enfant à la mère. Mais, à partir de 14 ans, on le retire, parce que ça commence les petites jalousies de la fille pour la mère et du garçon pour le père. Alors on le retire. Alors je lui ai dit, dans 10 ans, je reviendrai. Parce que la jalousie, c'est la passion. On sait très bien, regardez, justement, cette alliance première avec la famille. La jalousie pousse en famille. Et la jalousie se corrige le mieux en famille. C'est la grande correction que doit faire la famille. Et si la famille ne le fait pas, personne d'autre ne le fait. Ça restera la jalousie, un péché dominant, une passion dominante. C'est pour ça que je lui ai dit, dans 10 ans, je reviendrai. Alors il a souri, il a très bien compris. On ne va pas si facilement contre la famille. La première éducation familiale est capitale. Et je trouve cet exemple est très étonnant, parce que c'est une expérimentation. Tous étaient 1 an en retard, parce qu'il n'y avait pas eu l'amour familial, l'amour de la mère.